I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Me serré la main, me serré la main, me serré la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Megan a 26 ans et est en couple avec son chéri depuis le collège. Il y a quelques mois, ils ont décidé de se lancer dans le tourbillon de la maternité, et pas une seconde, elle ne s'attendait à y rentrer par ce chemin-là. Pourtant, Megan a un pressentiment dès que son test de grossesse affiche positif, et même si elle se projette rapidement, une petite voix lui dit que quelque chose ne va pas. Première échographie, rien à l'écran, et le verdict tombe. Megan fait une grossesse molaire. Elle repart effondrée avec ce terme qu'elle n'a jamais entendu auparavant, sans plus d'explications. Et puisque le flou perdure trop longtemps, Megan va faire ses propres recherches pour comprendre ce qu'est une grossesse molaire. Elle nous explique tout dans cet épisode. Bonne écoute.
Bonjour Megan.
Salut Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci à toi. Je suis très contente de venir témoigner cette histoire. Parce que je trouve que ça manque vraiment d'informations. Et puis moi j'ai beaucoup eu ce sentiment d'injustice de ne pas avoir... entendu ça avant que ça m'arrive.
Donc toi, la maternité, le sujet de la maternité, à quel moment tu y as pensé ? T'as 26 ans aujourd'hui.
Ouais, j'ai 26 ans. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Même à l'adolescence, par exemple, je me voyais maman. C'est quelque chose où ça n'a jamais été une question pour moi, la maternité, mais plutôt une évidence. Et mon conjoint, c'était pareil, on en a parlé très tôt. Donc j'ai 26 ans, on s'est connus au collège et ça fait presque 11 ans maintenant qu'on est ensemble.
Ouais.
Donc c'est un sujet vraiment qu'on a toujours évoqué. Et puis voilà, quand on est en âge un peu, où on se dit bon bah on a une situation, c'est peut-être le moment. C'était normal pour nous, vraiment, il n'y a jamais eu de... On s'est jamais posé en se disant, bon alors, est-ce qu'on veut des enfants ou des choses comme ça? C'était plutôt naturel pour nous de concevoir notre famille. Et puis le côté qu'on est ensemble depuis longtemps, du coup, on a eu la chance de pouvoir faire plein de choses avant aussi. Donc je pense que vraiment, on a aussi ce moment où on a bien profité de nous à deux et qu'on se sent vraiment prêt à être nous à 3, 4 et peut-être plus. Mais voilà, donc ça n'a jamais été une question, ouais, vraiment.
Et donc vous décidez justement de vous lancer.
Ouais, alors c'est marrant parce que tu vois, même si ça a été plutôt une évidence et puis on ne s'est jamais questionné, moi c'était plutôt... bon allez on y va, et que mon conjoint c'était plus je sais pas, est-ce que c'est le bon moment, des choses comme ça, donc si tu veux, moi c'est plus moi un peu qui était moteur. Allez. Pour le coup, et lui il s'est laissé porter en se disant bon bah on verra bien quoi, et je pense que même pour les prochains enfants, genre, à mon avis ça sera un peu toujours ça, parce qu'il est très anxieux, donc je pense que tu vois, juste le fait de dire ok c'est bon on y va, c'est engageant pour lui. Et du coup, il y aura toujours un peu ce « ouais, je sais pas quand même ». Et il s'est laissé porter plus par moi et mon optimisme sur la question que de dire « ok, c'est bon, on y va », tu vois.
Ouais, toi, t'es dans l'action, il est dans la réflexion.
C'est ça. Ouais, c'est vraiment bien résumé.
Et donc, tu tombes enceinte rapidement ?
Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai arrêté la pilule depuis au moins 3 ans. J'utilise le préservatif en moyen de contraception, c'est quelque chose qui nous convient, et donc du coup je ne sais pas si ça a aidé ou pas, mais quand on a décidé de faire un enfant, effectivement le mois d'après, en fait, j'étais enceinte, j'ai eu mes règles, j'ai attendu mon cycle, si tu veux. Je savais à peu près quand est-ce qu'était mon ovulation, donc vraiment, je savais que potentiellement je pouvais tomber enceinte sur cette période-là, et je suis tombée enceinte vraiment tout de suite.
D'accord. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
En fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est que j'ai appris rapidement, finalement, que j'étais enceinte. Alors, je dois avouer que je scrutais un peu tous les signes possibles qu'on pouvait avoir en étant enceinte. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai même... Donc, je travaillais encore dans mon entreprise, parce que, du coup, j'étais pas encore partie officiellement, c'était en cours. Et du coup, je passais devant les pharmacies en allant au travail. Et du coup, je me suis dit... je savais quand est-ce que je devais avoir mes règles à peu près. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais quand même acheter un test de grossesse au cas où. Sans vraiment avoir de signes, hein, parce que je savais que mes règles allaient arriver dans 2-3 jours. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je sais qu'il y a des tests qui peuvent être faits un tout petit peu avant. Vraiment, j'étais pressée, en fait, de savoir... Parce que, en fait, je me suis dit, potentiellement, c'est possible que je sois enceinte, là. Et tu sais, l'idée, fallait qu'elle devienne un peu concrète, parce que, du coup, ça me tournait un peu dans la tête. Donc, du coup, j'ai fait un test de grossesse. Et puis, en fait, le premier jour où j'étais censée avoir mes règles, comme je suis très réglée, bah, je me suis dit, si je les ai pas quand je me réveille, quoi, parce que je savais... Je suis très réglée, même en termes de, tu vois, de timing horaire, souvent. Oui. C'est, voilà, je sais que ça va être là. Et comme je les avais pas, je me suis dit, allez, fais le test, et puis voilà. Et le test, je l'ai fait un matin hyper tôt, quand je me suis réveillée, en fait. Je me suis levée, j'étais chez moi, et j'ai fait mon test à la maison, du coup. Et puis il a tout de suite été positif. Alors tu sais, c'est les Clear Blue que t'achètes 15€, là. Et t'attends d'avoir le petit écran qui s'affiche, et en fait, ça m'a affiché rapidement... 2-3 semaines, donc j'ai tout de suite été réveillée mon conjoint avec le test, et du coup c'était une bonne nouvelle. Ouais. Et puis après tout de suite je me suis dit oui, je vais attendre et je vais aller faire une prise de sang, et je sais plus quand est-ce qu'on était dans la semaine, mais j'ai été faire la prise de sang assez rapidement derrière, et qui était positive aussi, donc pour moi c'était sûr que j'étais enceinte, en fait. Et ouais. Et j'ai appelé très rapidement aussi mon gynécologue pour avoir un rendez-vous, parce que je voulais savoir déjà quelle était la démarche, qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que pour le coup, j'ai jamais été maman, donc je ne sais pas. Et en fait, il m'a expliqué qu'on allait faire une échographie de datation. Je sais que tous les gynécologues ne la font pas, mais moi, ça me rassurait, parce que t'as, avant l'échographie du premier trimestre, et puis par rapport à ce qui m'est arrivé ensuite, je remercie mon gynécologue de faire une échographie de datation. Et donc, du coup, j'avais rendez-vous chez le gynécologue peut-être 2 semaines et demie après. Du coup, j'étais dans ma 7e semaine de grossesse aménorrhée. Et quand j'allais aller chez le gynécologue, je savais que c'était à cette période-là, en fait, cette semaine d'aménorrhée. Et quand je l'ai appelé, je crois que j'étais à 3 semaines de grossesse. J'y étais très rapidement, en fait, vraiment très rapidement. L'attente était très longue, du coup, parce que, en fait, pendant toute cette attente-là, je me suis posé beaucoup de questions. En même temps, on se projetait beaucoup avec...
Est-ce qu'il y avait combien de jours entre...
Bah, du coup, il y avait à peu près 2 semaines et demie.
Ah oui, d'accord.
2 semaines ou 3 semaines. J'étais à 5 semaines d'aménorrhée quand je l'ai appelée, donc début de grossesse. Et j'allais... mon rendez-vous tombait sur du 7 semaines aménorrhée, parce que du coup, il m'avait dit je préfère attendre encore un peu, parce que 5 semaines, apparemment, on peut commencer à voir. Quelque chose à l'écran, mais bon, c'est jamais très sûr, donc il m'avait dit on attend un peu, quoi. Et donc, du coup, j'ai attendu.
Donc 2 semaines pendant lesquelles tu commences à te projeter.
Ouais, vachement, même si je me dis que je dois pas trop, qu'on sait jamais et tout. En fait, j'ai un peu des phases. C'est-à-dire que j'ai des jours où je me dis, vas-y, on n'y pense pas, on attend de voir. J'ai d'autres jours où je me dis, non, mais c'est pas grave, de toute façon, faut bien commencer à se projeter à un moment donné. Et puis après, j'ai vraiment cette intuition qu'il y a un truc qui va pas, mais genre hyper forte.
Ah oui ?
Et j'en viens même à dire par moment à mon conjoint, on verra, parce que si ça se trouve, il n'y a rien. Si ça se trouve, c'est un œuf clair. Enfin, tu vois, et j'en avais déjà entendu parler. Et du coup, je lui dis oui. Puis en plus, potentiellement, je peux faire des fausses couches.
Ah ouais, t'avais tout ça en
tête. Ouais, j'avais tout ça en tête. J'avais vraiment tout ça en tête et je me disais oui. Et c'est pour ça que, tu vois, j'avais un peu ces humeurs un peu différentes chaque jour où je me disais, faut pas se projeter parce qu'on ne peut pas savoir encore vraiment si tout est OK. Et puis après, d'autres jours où je me disais, non, mais pourquoi ça se passerait mal, en fait? Pourquoi tu penses à ça? Et je sais pas, j'avais un peu, tu vois, ça en tête. Et jusqu'au jour où, donc le 17 juin, où j'ai rendez-vous. Et je me souviens vraiment, mais avant de partir, je sais plus quelle phrase me dit mon conjoint. Et je lui dis, non, mais si ça se trouve, il n'y a rien, donc vraiment... on verra après, quoi. On rediscutera de ce potentiel bébé après mon rendez-vous.
Parce qu'en plus, le rendez-vous, il se faisait là, pendant le confinement.
Alors, c'était plus le confinement. Il y avait eu le déconfinement. Mais du coup, je ne pouvais pas y aller avec mon conjoint. J'étais toute seule. Et je pense que c'est... Quand je suis partie, il m'a dit quelque chose comme... Oui, enfin, c'est vraiment... J'aurais bien aimé venir. Et puis moi, j'ai dit non, mais... t'inquiète pas, et puis de toute façon, si ça se trouve, il n'y a rien. Et je suis partie, et je me souviens de monter dans ma voiture, et puis tu sais, de prendre un peu ma respiration, et de me dire, bon vas-y, je vais vraiment avoir un résultat, quoi. Je vais vraiment savoir si c'est OK ou pas. Et puis donc, je suis allée à ce rendez-vous en me disant en plus qu'il allait me prendre en retard, parce que souvent, il me prenait en retard. C'était entre midi et deux, et il m'a pris tout de suite, en fait. Je suis arrivée, il m'a pris, et je me suis dit, bon, bah déjà, c'est cool, parce que je vais un peu arrêter de réfléchir. Et puis, bien sûr, pendant ces deux semaines et demie, j'ai scruté tous les sites possibles de l'évolution de ta grossesse. J'avais déjà téléchargé l'application, tu sais, Grossesse Plus. Donc je regardais tous les jours l'évolution du fœtus et je savais exactement ce que je devais voir à mon échographie. Je savais vraiment... je savais la tête que devait avoir mon embryon. Et mon gynéco, quand je suis arrivée, donc il m'a demandé, tu sais, vos dates de dernière règle, il a calculé. Il m'a donné la date approximative d'accouchement. Il m'a déjà parlé de... Vous avez réfléchi à une maternité. Tu vois, il m'a déjà parlé de ça. Et c'est bête, mais tu vois, ça m'a mis tout de suite en mode... je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est bon. C'est parti, quoi. Vraiment, c'est parti. Et puis,
qu'il t'a parlé de tout ça avant même de faire l'échographie.
Ouais, avant même l'échographie. Et puis, il me dit, bon, bah là, à votre stade, on va très bien voir normalement... Et effectivement, à cette semaine, tu vois un peu le haricot, quoi, tu vois bien. Et donc, il me dit, bon, bah, on va y aller, on va faire l'échographie. Et il commence à faire l'échographie. Je suis allongée et l'écran est en face. Il y a un grand écran. Et puis, je vois qu'il cherche et puis je vois mon utérus, du coup. Et je vois qu'il y a rien qui... Je vois qu'il y a rien, mais je vois qu'il y a des formes. Et je vois qu'il parle pas. Et je sens que c'est pas normal et je le sais. Je sais pas comment te l'expliquer, mais il avait même pas besoin de me le dire. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mmh. Et en fait, il me le dit à un moment donné. Il me dit, il y a quelque chose de pas normal. Et du coup, tu vois, je parle pas trop, je l'écoute. Je pleure pas, tu vois, je suis très très calme parce que en fait je me retrouve devant cet écran et puis c'était comme si je savais que j'allais voir ça, tu vois, je m'attendais à voir quelque chose de pas positif. Je m'attendais à voir ça et enfin je m'attendais à rien voir en tout cas. Et du coup quand il m'a dit que ça n'allait pas, il me dit bah par contre je vois pas d'embryon mais je vois bien qu'il y a quelque chose mais il y a pas d'embryon. Donc il commence à me dire si ça se trouve c'est une grossesse extra-utérine. Donc le moment est pas du tout agréable parce que c'est une échographie pelvienne. Il cherche partout un embryon qu'il ne trouve pas. Il parle de grossesse extra-utérine, chose que j'avais déjà entendue. Puis en fait il vient par dire, vous voyez là, ça fait comme des masses. Et effectivement, je le voyais bien, ça faisait comme une grappe de raisin, tu vois, ça faisait vraiment cet effet grappe de raisin. Et je voyais bien que, qu'effectivement, il n'y avait pas d'embryon et qu'il y avait plusieurs petites masses les unes sur les autres. Et du coup, c'est là qu'il me dit, oui, je pense que c'est des môles et je pense que c'est une grossesse molaire. Donc déjà, des môles, moi, je ne savais pas ce que c'était. Une grossesse molaire, j'en avais jamais entendu parler. Et si tu veux, j'étais là toute seule, devant mon écran, et je savais pas trop de quoi il me parlait. Il me dit tout de suite qu'il va falloir évacuer ça. Mais moi, je pose pas vraiment de questions parce qu'en fait, je sais pas comment te dire, mais j'écoute. Et en fait, j'encaisse toutes les informations, mais je me vois pas poser de questions parce que de toute façon, en fait, y a rien à demander pour moi. C'est juste que c'est terminé dans le sens où il y a pas de grossesse. Il me dit que c'est pas une grossesse évolutive, qu'il faut l'interrompre. Mais si tu veux, même lui, il est pas... comment dire, c'est pas qu'il est pas sûr de son diagnostic, mais c'est... Et ça, je vais le comprendre bien après, pourquoi il est un peu comme ça, évasif. C'est qu'il me dit, je pense que c'est une grossesse molaire, mais va falloir que vous alliez à l'hôpital. Ils vous referont des examens et ils pourront vous dire exactement ce que c'est. Mais si tu veux, en fait, je ressors du rendez-vous et je sais juste que j'ai pas de bébé, mais c'est tout, en fait. Je sais que j'ai pas de bébé, que je fais une grossesse molaire, mais c'est tout. Je sais que mon placenta, il évolue, en fait. J'ai un placenta et il évolue, mais je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas quelle est la cause de tout ça. Je sais pas comment ça m'est arrivé. Je sais que c'est pas une fausse couche. Je sais que c'est pas un œuf clair. Mais je sais absolument pas ce que c'est. Et c'est ça qui est un peu compliqué à gérer, parce que du coup, je suis toute seule déjà avec lui. Lui, je sens que c'est quelque chose qu'il est... Comment dire, pour le... C'est assez inhabituel pour lui, il n'est pas confronté à ça tout le temps. Et puis, tu sais, après, donc je me rhabille, on discute un peu, il me demande si ça va. Je lui réponds que oui, ça va. Je pleure pas, vraiment, je pleure pas, tu vois. Je suis là, j'écoute ce qu'il me dit, puis il me dit, mais vous inquiétez pas, c'est des choses qui peuvent arriver, ça se repassera, ça veut pas dire que ça se passera pas bien pour une prochaine grossesse. Puis il me dit même, vous inquiétez pas, vous pouvez attendre un cycle, et puis si ça se trouve le mois prochain, vous pourrez recommencer. Et il me dit ça, et moi je pars en fait sur ça, et puis je me souviens, je redescends, et puis je me mets à pleurer dans ma voiture, parce que en fait pendant la consultation il y avait mon conjoint qui m'appelait, parce que du coup il voulait savoir, et du coup moi j'étais toujours avec le gynéco, et tu sais je mettais mon téléphone en mute pour qu'il arrête de vibrer, et je lui ai juste envoyé un SMS en lui disant que je sais même plus quels étaient mes mots, mais c'était y a rien, je crois que je lui ai dit quelque chose comme y a pas de grossesse, y a rien. Ah oui. Et je suis partie, enfin tu vois, je l'ai laissé sur ça. Et en fait après je suis arrivée dans ma voiture et je me suis mise à pleurer, parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas fait dans le cabinet du gynécologue, mais je sais pas, j'encaissais toutes ces infos, puis je me suis retrouvée dans ma voiture et puis ouais, je me suis mise à pleurer, mais tout le trajet en fait, jusqu'à temps de rentrer chez moi. Et puis quand je suis rentrée chez moi, j'ai des escaliers, et puis je l'entendais qu'il avait entendu la porte s'ouvrir, donc mon conjoint, je l'entendais descendre, tu sais. Puis je l'ai vu, et puis je me suis mise vraiment là à pleurer, parce que enfin tu sais, j'avais l'impression de rentrer chez moi et d'être la cause de la mauvaise nouvelle, parce que c'est moi qui rentrais et c'est moi qui venais apporter ça. Et lui de son côté, il se sentait vachement coupable, parce que du coup en fait quand j'ai appris ça, j'étais toute seule, et c'était, je pense que c'était très difficile pour nous deux. Puis après il y a tout l'après, tu vois, je voulais pas annoncer ma grossesse tout de suite à tout le monde, et du coup dans ma tête, tu vois, je savais que j'avais rendez-vous le 17 juin. Le 17 juin, je voulais l'annoncer qu'à mon entourage proche, tu vois, à mes parents, vraiment le petit entourage, on va dire. Et puis je m'étais dit, j'attendrai un peu pour les autres. Et tu vois, j'ai bien fait, parce que je me serais pas vue. J'ai bien fait de faire, enfin, de pas l'avoir dit avant, parce que je me serais tellement pas vue de voir annoncer une bonne nouvelle il y a 2 semaines et puis une mauvaise, tu vois, 2 semaines après. Du coup, là-dessus, je me suis un peu remerciée d'avoir gardé ça pour moi jusqu'à cette échographie-là, parce que je pense que ça aurait été très difficile, du coup, de devoir annoncer une mauvaise nouvelle derrière une nouvelle qui est... Enfin voilà, je sais très bien que c'est quelque chose qui est plus ou moins attendu dans mon entourage, puisque ça fait très longtemps que je suis avec mon conjoint, et que que j'ai une sœur et qu'elle est plus petite que moi. Enfin, tu vois, c'est la suite logique, quoi. Et c'était une journée... franchement, c'était horrible parce que donc, du coup, j'avais rendez-vous à 13h. Et après, tu te sens... Bah, en plus, mon ventre était gonflé. Et c'était ça aussi qui me faisait dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. Mon ventre, il était gonflé et du coup, je me suis retrouvée chez moi avec un ventre gonflé, mais du coup, il n'y avait plus de bonnes raisons pour qu'il soit gonflé. Et du coup, t'as un peu un rejet de toi-même où tu dis non, mais là, j'ai un bide alors qu'il n'y a rien dedans. Et t'as plus envie d'avoir ça en toi, en fait. Tu dis mais qu'est-ce que j'ai en moi? En tout cas, il n'y a pas de vie. Et du coup, tu veux que ça s'arrête. Donc moi, j'ai été à l'hôpital tout de suite, en fait. Mon conjoint était en télétravail et je lui ai dit oui. Il avait une réunion, je crois. Il m'a dit, je fais ma réunion à 16h et après, on y va. Et en fait, il a fait sa réunion et après, on est parti à l'hôpital. Et c'est là que tout le chemin de la grossesse molaire a commencé, où j'ai commencé à m'informer. Mais je restais dans le flou, quoi, jusqu'à longtemps.
Mais du coup, donc tu sors de chez ce gynéco et quelques heures après, tu vas à l'hôpital, c'est ça ?
Ouais, le jour même. Le jour même parce que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, mais je vais pas rester comme ça avec quelque chose en moi qui est rien. Et puis potentiellement, c'est que le placenta continue d'évoluer. Mmh. Et ça, je le sais pas tout de suite. Mais j'ai envie de... d'entreprendre quelque chose parce que je me dis il faut que je passe à autre chose. Je veux passer à autre chose et je me dis mais je vais pas rester là chez moi, surtout que du coup je ne travaillais pas cette journée-là et je me suis dit mais je vais pas attendre chez moi et voilà, je sais qu'il faut que j'aille faire des examens à l'hôpital, je sais qu'il va falloir que je subisse un curetage parce que le gynécologue me l'a dit. Mais je me vois pas rester en fait chez moi et avec rien en moi parce que j'ai envie, enfin c'est ça, j'ai envie que ça parte en fait, j'ai envie que de passer à autre chose et je me dis il faut que ça se termine en fait, je peux pas rester avec ça dans moi parce que du coup je sais pas ce que c'est mais c'est pas ce que je veux et du coup je vais à l'hôpital. Et c'est terrible parce que du coup, tu te retrouves à la maternité et tu te retrouves avec des femmes enceintes et tu te retrouves avec tout ce que toi, tu vas pas vivre pour l'instant, en fait. Parce que du coup, t'es aux urgences gynécologiques, donc t'as les femmes qui vont accoucher qui arrivent. Je me souviens d'une femme qui s'est mise à pleurer parce que du coup, en plus, c'est mal isolé, mais elle est arrivée à l'hôpital et puis t'entends, après, selon ton ordre d'arrivée, enfin les urgences, quoi. Et puis elle rentre dans la salle et puis t'entends un peu ce qui se passe, t'entends les cœurs des bébés, tu vois, t'entends tout ça. Donc c'est franchement horrible. Et en plus, moi je suis là et je sais pas pourquoi je suis là en fait. Parce que je sais que je vais devoir subir un curetage, mais je sais toujours pas ce que c'est la grossesse molaire. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Et à chaque fois on me refait des prises de sang. Et en fait, je vais revenir à l'hôpital pendant une semaine, tous les deux jours, pour faire des prises de sang. Sans vraiment savoir pourquoi, toujours. Franchement, c'était horrible. Parce que tous les deux jours, je devais aller à l'hôpital et faire des prises de sang pour contrôler mon taux d'hormones. Et en fait, mon taux d'hormones, il évoluait. Parce que la grossesse, elle évoluait. Mais c'est le placenta qui évoluait. Et sauf qu'on se rend compte que le taux d'hormones, il augmente anormalement. Il est hyper élevé et à chaque fois on refait des échographies parce qu'en fait on cherche un embryon et ça je le sais sans le savoir parce que moi du coup pendant cette semaine entre les moments où je vais faire ma prise de sang, je reviens à l'hôpital, puis à chaque fois tu te retrouves dans le service gynécologique, enfin c'est franchement horrible et du coup je me renseigne, je tape sur Google grossesse molaire, j'essaye de trouver des informations parce que du coup, entre le moment où j'apprends chez mon gynécologue à mon échographie de datation que j'ai une grossesse molaire et mon curetage, ouais, il se passe peut-être une semaine. Et pendant toute cette semaine, en fait, même si je vais à l'hôpital, qu'on me fait des prises de sang, qu'on me refait des échographies, je vois juste effectivement toutes ces môles. Et je sais pas ce que j'ai, en fait. Et personne m'explique, en fait. On m'explique sans m'expliquer, tu vois. On me montre à l'écran, on me dit, bah, vous voyez, ça, c'est des masses, et en fait, ça se succède, mais ça forme une grappe de raisin. Votre placenta, il évolue, et on commence à me parler de tumeurs. En fait, c'est à plein d'informations, mais tout est flou. Ils vont pas au bout de leurs informations, et moi, je comprends pas pourquoi. Et du coup, je cherche moi-même. Je fais mes recherches moi-même et en fait, je découvre que la grossesse molaire, c'est une fécondation. C'est au moment de la fécondation, il y a un problème génétique qui fait que il y a ces masses qui se créent. Et en fait, j'apprends aussi que les masses qui se créent, ils appellent ça des môles. Et qu'en fait... potentiellement, tu peux avoir deux types de grossesse molaire. Tu peux avoir la grossesse molaire partielle. Donc là, c'est quand il y a un embryon qui est bien présent, mais que derrière, tu as effectivement les môles qui se développent. Et tu peux avoir la grossesse molaire complète. C'est-à-dire que tu as que le placenta qui évolue, mais t'as pas d'embryon. Donc pour le coup, t'as vraiment rien.
D'accord.
Et du coup, tu vois, moi, je commence à comprendre pourquoi à chaque fois on me refait des échographies et pourquoi on cherche un embryon. Parce que potentiellement, du coup, tu as différents diagnostics. Mmh. Et derrière, le suivi est complètement différent aussi. Et en fait, j'apprends plein de choses comme ça. Je tombe sur des articles dans la presse. Je vais sur Doctissimo, tu vois, les sites un peu comme ça. Ça donne des définitions, mais je trouve pas grand-chose. Et mon premier réflexe, ça a été d'aller sur Instagram et de taper « grossesse molaire » en hashtag.
Ouais.
Parce que je me suis dit, c'est sûr que, vu que la maternité, tout le monde en parle, c'est sûr que les fausses couches, tu vois, sur Instagram aussi, t'as des comptes qui sont dédiés à ça. Je me suis dit, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui en ont parlé. Et en fait, je tombe sur à 10 posts, en fait, le hashtag, tu vois. Et je me dis, mais en fait, je regarde un peu et je comprends pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de témoignages de femmes, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pas plus d'infos. Je me dis, putain, c'est dingue, il n'y a personne qui parle de ça, mais qu'est-ce que c'est ? Donc je creuse et en fait je découvre que tu peux avoir, comme je disais, deux types de grossesse, partielle ou complète, que tu peux avoir dans la partielle un embryon, que dans la complète tu n'as pas. Et le truc, c'est que pour avoir cette analyse-là, bah, il faut que tu aies fait ton curetage. Et en fait, quand tu fais ton curetage, donc il t'enlève le placenta et les môles et il l'envoie à ce qu'ils appellent l'anapath, je pense que c'est une sorte de biopsie pour analyser ton placenta et voir ce que c'est. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là où ils peuvent savoir si quel type de grossesse molaire t'as fait, si c'est bien une grossesse molaire, parce que jusqu'à mon curetage, on me dit, on pense que c'est une grossesse molaire, mais on peut pas l'affirmer, en fait.
Oui.
À l'échographie, ça semble être ça. Mais on le saura que quand on aura eu les analyses du curetage.
Mais pourquoi, du coup, ils n'ont pas fait le curetage plus tôt ?
Parce qu'en fait, je pense qu'ils surveillent le taux d'hormones. Je pense qu'en fait, quand ils ne trouvent pas d'embryon, ils cherchent un peu plus, je ne sais pas. Ou alors, je suis tombée sur des personnes qui... parce que la grossesse molaire, à chaque fois, tu vois, je sentais que c'est une grossesse sur 1000 en France.
Ouais.
Donc je pense que, tu vois, t'en as pas tous les jours.
Parce que si elle est partielle, tu peux poursuivre ta grossesse ?
Non, t'es obligé, dans tous les cas, t'es obligé de mettre un terme à ta grossesse, parce que au bout d'un moment, en fait, le placenta, il laisse pas vivre ton embryon.
D'accord.
Il laisse pas vivre ton embryon, et ce qu'il faut savoir, et ça tu le sais pas tout de suite non plus, c'est que, en fait, cette môle, elle peut devenir ce qu'ils appellent invasive, et en fait, ça peut se transformer en cancer, en D'accord. cellules cancéreuses. Et c'est pour ça qu'ils prennent pas le risque et qu'ils font le curetage et qu'après, tu as toute l'analyse. Mais tu vois, moi, ce que je regrette un peu, c'est que... En fait, j'aurais aimé que, dès lors de mon premier rendez-vous chez le gynécologue, pour l'échographie de datation, ils me disent, bah voilà, vous avez une grossesse molaire. Une grossesse molaire, c'est ça. Je peux pas trop vous donner de diagnostic, parce que potentiellement il y a deux types de grossesse molaire, que le suivi derrière ne sera pas le même. Donc là, pour le moment, ce qu'il faut, c'est aller à l'hôpital pour juste effectuer le curetage, pour analyser votre placenta, avoir les résultats et après on pourra mettre en place le suivi qui va derrière. Et en fait ça, ça je l'apprends après mon curetage.
Du coup ton curetage il a été programmé au bout de combien de temps finalement ?
Une semaine.
D'accord.
Une semaine à peu près. Et donc pareil, du coup, contexte sanitaire, j'ai pas le droit d'être accompagnée. On me dépose en fait, mon conjoint me dépose et on l'appelle pour qu'il revienne me chercher. Donc tu vois, c'est hyper compliqué parce que du coup, moi je me sens hyper seule. Et je sais que mon conjoint il aime pas quand j'utilise « je » ou des choses comme ça parce qu'il dit « oui, mais tu sais... c'est pas toi qui as vécu ça, c'est nous, en fait. On a vécu la chose. » Et c'est vrai que moi, au début, je lui disais « Oui, je suis d'accord, mais c'est quand même moi qui ai dû... » Enfin, c'est comme quand tu portes un enfant, en fait. C'est la mère qui porte l'enfant. Donc, en fait, j'estimais que, si tu veux, lui, il avait OK tout ce qui est un peu psychologique et que moi, j'avais le côté physique aussi. Parce que mon corps, il a évolué comme un début de grossesse. J'étais très fatiguée parce que, en fait, t'as tous les symptômes d'une grossesse classique.
Ouais.
T'as tous les symptômes d'une grossesse classique et j'étais épuisée. Moi, j'étais vraiment... vraiment très très fatiguée. Puis alors du coup après j'arrêtais pas de pleurer, enfin tu vois j'avais des phases comme ça. Et donc du coup pendant une semaine bah ouais j'attends pour le curetage. Le curetage a lieu, je suis toute seule parce que je peux pas me faire accompagner. J'ai peur de l'anesthésie générale parce que je sais que je la supporte pas très bien, donc je l'en fais part à l'anesthésiste et elle me dit bah si vous voulez on peut faire que le bas. J'ai dit, mais il est hors de question que j'assiste à ça, que les jambes. Je dis non, je préfère encore mal vivre mon anesthésie que de voir. Donc en fait, j'y vais, ça dure... Enfin, voilà, je suis toute seule au bloc. Enfin, c'est un peu particulier parce que t'es vraiment seule. Et j'avais jamais eu de curetage. Tu te retrouves dans une salle d'opération... Tu te dis pas que quand tu veux faire un enfant, tu vas te retrouver là, en fait. Tu penses pas à ça et c'est vraiment pas ce que je me suis dit au tout début. Et puis bah après t'as le curetage qui a lieu. Et puis donc là, on est fin juin. Et mon curetage, il a eu lieu le 23 juin. Et puis j'attends les résultats qui peuvent mettre jusqu'à 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, je sais que je dois aller faire des prises de sang toutes les semaines pour contrôler mon taux d'hormones, parce que potentiellement le taux d'hormones peut réaugmenter. Et c'est mauvais signe parce que s'il réaugmente, ça veut dire qu'il y a des restes, ça veut dire que la moule potentiellement peut s'accrocher et peut se métastaser, et donc c'est là que les cellules cancéreuses interviennent. Et en fait, à ce moment-là, bah, du coup, pendant 3 semaines, t'attends. J'ai toutes les informations en ma possession. Je sais voilà ce que j'ai. Je sais ce qu'est la grossesse molaire. Donc pareil, je continue à me documenter. Je tombe sur le centre de référence de Lyon. Je sais que c'est un centre qui, du coup, traite toutes les maladies trophoblastiques, ça s'appelle. La grossesse molaire fait partie de ça. Et donc, du coup, je sais que ce centre de référence, c'est lui qui traite tous les cas de grossesse molaire. Et moi, donc, je sais que normalement, mon médecin va devoir m'inscrire, parce que généralement, c'est ça. Le centre de référence de Lyon va venir en soutien, en fait, aux gynécologues, aux médecins qui nous suivent dans ça, parce que bah, t'en as qui connaissent le nom grossesse molaire, et tu vois, l'information, elle est pas la même pour tout le monde. Et moi, j'ai la sensation de jamais être tombée sur un médecin qui sache vraiment de quoi il me parle.
Ouais.
Le seul médecin, si tu veux, qui m'a expliqué ce que c'était donc quand ils m'ont donné les résultats en me disant bah, c'est bien une grossesse molaire, qui m'ont dit quel type de grossesse molaire j'avais. Donc moi, c'était bien une grossesse molaire complète parce qu'il n'y avait bien pas d'embryon. Mais en fait, si tu veux, le médecin qui m'a reçu et qui m'a expliqué tout ça, il m'a juste ressorti la documentation du centre de référence de Lyon. Et moi, ça, je l'avais déjà lu parce que de par mes recherches, j'étais tombée dessus. Donc j'avais déjà connaissance de... En fait, tout ce qu'il m'a dit, il m'a juste lu le document, mais moi, je l'avais fait de moi-même. Donc, je pense que t'as des médecins qui sont très bien informés, t'en as d'autres qui sont moins. peut-être que le médecin qui m'a suivi, tu vois, il avait jamais eu le cas, et puis du coup, maintenant qu'il a eu le cas, il est mieux informé et il sera... Je sais pas.
Ouais.
Mais le centre de référence de Lyon, en tout cas, accompagne tout ce qui est bah, voilà, le milieu, enfin les médecins qui vont nous suivre dans ça. Et moi, en fait, quand on m'a expliqué ce que j'avais, je savais déjà ce que j'avais. J'avais déjà lu tout ce que ça voulait dire. Mm. Donc, si tu veux, c'est... Il m'apprenait rien, en fait. Je savais déjà. J'avais déjà lu le fascicule du centre de référence de Lyon. J'étais tombée sur l'association qui aide, justement, toutes les personnes atteintes des maladies trophoblastiques. C'est... Alors, je connais le... C'est l'ASOMT. A-S-O-M-T. Sur Instagram, on peut trouver leur compte. Et puis, en fait, c'est quand j'avais découvert un peu l'association, bah, quand sur Instagram, j'avais tapé mon fameux hashtag grossesse molaire, où je suis tombée sur des publications de l'association. Ensuite, j'ai découvert un groupe Facebook aussi, où, du coup, j'ai été chercher mes infos comme ça, en fait. Et c'est comme ça que j'ai tout appris, finalement, sur ce que j'avais. Et que j'ai pu... Ouais, j'ai pu poser des questions. Le médecin qui m'a donné le résultat de mon placenta, il m'a dit donc que j'avais une grossesse molaire complète. Il a aussi il m'a aussi expliqué du coup le suivi en me disant bah voilà, bah maintenant que on peut poser un diagnostic sur ce que vous avez eu, voilà quel va être le suivi. Donc là j'apprends que je vais devoir faire des prises de sang toutes les semaines. Jusqu'à temps que mon taux passe à zéro, soit négatif en fait 3 fois de suite.
D'accord.
Mais du coup, on peut pas savoir combien de temps ça va prendre. Donc pendant... tu vois, je me dis, sur internet, j'avais lu que certaines femmes avaient attendu un an avant de pouvoir retomber enceinte, tu vois. Et du coup, je me dis, bah voilà, là c'est bon, j'en ai au moins pour un an. Et je me mets ça en tête parce que bah je sais que potentiellement ça va être ça pour moi, parce que j'ai le cas le plus compliqué dans le suivi, dans le sens où quand t'as une grossesse molaire partielle, ce qui se passe, c'est que après tu as juste les 3 prises de sang négatives à avoir. Alors ça peut prendre du temps aussi, mais une fois que t'as ces 3 prises de sang qui sont négatives, tu peux retenter les essais. Que dans le cas de la grossesse molaire complète, donc mon cas, une fois que tu as tes 3 prises de sang négatives 3 fois de suite, tu as un suivi de 6 mois qui commence. Et pendant 6 mois, tous les mois, je vais faire une prise de sang pour contrôler mon taux d'hormones. Et pendant ces 6 mois, je dois pas retomber enceinte, parce que du coup, sinon, on serait dans l'incapacité de savoir si ma mole revient.
Ouais.
Ou si c'est juste une grossesse. Et donc, du coup, on m'explique tout ça. Et moi, je me dis, bon, bah, 6 mois, ouais, en gros, j'en ai pour un an, quoi. Parce que je sais pas combien de temps ça va prendre que mon taux redevienne négatif 3 fois de suite. Donc, je me dis, je pars dans cette idée de... Je peux oublier la maternité pendant un an, quoi. Je pense tout de suite à mes vacances aussi, parce que du coup, on est en juin, je pars en vacances en août, et je me dis, mais ça veut dire que je vais devoir faire des prises de sang pendant mes vacances. Et en fait, tu peux pas tourner la page, parce que tous les mois, toutes les semaines, on t'est ramené à ça, à ta prise de sang, et du coup...
Oui, parce que toi, tu pensais justement ce jour où tu t'es dit, je vais à l'hôpital tout de suite, comme ça, c'est terminé, c'est ça. On passe à autre chose, et en fait,
c'est ça. Je me suis dit, ok, il y a un curetage à faire, on passe au curetage, et après, c'est terminé. Mais en fait, au fur et à mesure que je me documente, bah non, je comprends que je vais devoir avoir un suivi. Je comprends que ça peut dégénérer en cellules cancéreuses. Je comprends que si mon taux d'hormone il augmente, c'est mauvais signe. Je comprends que si c'est le cas, potentiellement, je peux subir un deuxième curetage, parce que ça veut dire qu'il y a des restes. Je comprends aussi que si le taux, on voit qu'il n'est pas régulier, on peut aussi passer directement à la chimiothérapie. Tu vois, on me parle de tout ça et je me dis, non mais, en fait, c'est délirant. Tu te dis, mais attends, j'ai juste voulu faire un enfant. Hein. J'ai juste voulu faire un enfant. On a juste voulu devenir parent et on se retrouve à nous parler de cancer, de chimiothérapie. Mmh. Et là, tu te dis, mais c'est un délire. C'est un délire. Et tu te dis, mais comment en tant que femme, jamais je n'ai entendu parler de ça. Mmh. Parce que c'est une grossesse sur 1000, c'est rare. Mais en même temps, une grossesse sur 1000, tu vois, ça revient vite. Donc, tu te dis, waouh, tu penses pas à... Tu penses pas du tout à ça quand t'as envie de créer un enfant. Puis quand on commence à te parler de chimiothérapie, de tout ça, tu te dis mais ça veut dire quoi? Parce que ça, le fascicule du centre de référence de Lyon te l'explique très bien. Et en gros, ce qui se passe, c'est que c'est une chimiothérapie légère, entre guillemets, parce que par exemple, tu vas pas perdre tes cheveux, des choses comme ça. Mais c'est quand même une chimiothérapie. Et du coup, si t'en arrives à ce cas-là, bah, le suivi... Après, tu dois être suivi encore plus. Mmh. Et des fois, ça va jusqu'à 18 mois de suivi. Donc, tu dis, waouh, je m'attendais pas à ça. Et puis après, je sais pas comment expliquer, mais le fait de pas pouvoir retomber enceinte... En fait, moi, c'est quelque chose, même encore maintenant, même si... De par ce qu'on disait, j'ai ce projet professionnel qui m'accapare beaucoup de temps, sur lequel je peux me concentrer, penser à autre chose. Bah, souvent, tu vois, le soir, je reviens dans mon lit et puis je pense à ça, tu vois, et je me dis, là, je suis à peu près à... On est en novembre, quand on enregistre là le podcast. Bah, je me dis, bah voilà, potentiellement, j'aurais dû être à ce stade-là. Tu vois, t'as des petites pensées comme ça. Oui. Et puis dans ma folie des débuts, dans mes phases où quand on l'a appris, on avait été à Cultura, je m'étais acheté un livre sur l'allaitement, je m'étais acheté un livre sur les prénoms, tu vois. Et puis du coup, tu te dis, tu trouves ça injuste. Et puis après, moi, j'ai pensé à toutes ces femmes, tu vois, qui galèrent à avoir des enfants. Et du coup, tu comprends. Et c'est triste parce que tu dis que tu comprends que parce que ça t'arrive. Mmh. Et du coup, t'as toutes ces pensées-là. Et puis après, le groupe Facebook où je suis, du coup, j'ai partagé mon histoire. Il y a des femmes qui m'ont beaucoup aidée pour me dire que ça allait aller. Parce que derrière aussi, tu te poses pas mal de questions. Parce qu'on te dit, non, vous inquiétez pas pour les prochaines grossesses. Mais en réalité, tu sais pas trop, quoi.
Mmh. Et aujourd'hui, t'en es où, du coup?
Donc aujourd'hui, moi... Donc on est en décembre. Je dois être suivie jusqu'en février 2021. Ma okay. dernière prise de sang sera en février 2021. Et en fait...
Donc elles sont négatives, pour l'instant?
Ouais, pour l'instant. J'ai eu, dans mon malheur, de la chance. Parce que, déjà, mon taux est redescendu à zéro, je trouve, très rapidement. Parce que, tu vois, fin juillet, j'étais à zéro. Et en fait, quand on m'a annoncé les résultats que c'était une grossesse molaire complète, on m'a fait remplir les documents pour être référencée au centre de Lyon. Et du coup, je suis suivie également par le centre de Lyon.
D'accord.
Et donc, en fait, c'est eux qui t'envoient des courriers en te disant, par exemple, moi, quand j'ai été négative 3 fois de suite, c'est eux qui m'ont envoyé un courrier en me disant, bah voilà, maintenant vous êtes négative. Votre suivi va durer jusqu'à telle date et vos prises de sang, vous devez les faire jusqu'à telle date. Et ensuite, en gros, ils te renverront un courrier pour te dire c'est bon, tu peux réessayer d'avoir un enfant. Et du coup, moi, j'en suis là. Donc, il me reste 3 prises de sang parce que décembre, je ne l'ai pas encore faite. Mais c'est terrible aussi parce que tous les mois... tu peux pas passer à autre chose, en fait. Mmh. Parce que tous les mois, t'as un peu cette épée d'Amoclès au-dessus de la tête et tu te dis, pourvu que ma prise de sang, elle soit négative. Et tu vois, moi, je m'estime chanceuse, finalement, parce que le groupe Facebook, par exemple, où je suis, je vois des témoignages et je me dis, mais t'as des femmes où le taux réaugmente ou des choses comme ça. Ouais. Et je, tu vois, je sais pas si mon taux réaugmente... comment je vais le vivre, comment je le vivrai. Et du coup, bah, tous les mois, je souhaite qu'une chose, c'est que mon taux soit négatif. Mais c'est terrible aussi à dire, parce que quand t'as envie d'avoir un enfant, tu rêves de ce taux positif. Et là, moi, je me rends au labo en me disant il faut que ce soit négatif, parce que si ça l'est pas, c'est mauvais signe, quoi.
Ouais.
Et ce suivi est plus long dans le cas d'une grossesse molaire complète. parce que le taux de récidive en fait est plus important.
D'accord.
Enfin, le taux de, ouais, de récidive de la grossesse molaire complète est plus important que la grossesse molaire partielle. Et aussi, la durée du suivi, elle est faite parce qu'ils se sont aperçus que généralement, dans les cas des grossesses molaires complètes, la récidive intervenait dans les 6 mois. Donc voilà pourquoi tu as tout ce suivi. Mais ce que je regrette, moi, c'est... En fait, après, je pense que c'est aussi une question de point de vue. Mais moi, tu vois, j'aurais apprécié que quand je me suis rendue chez mon gynéco ce 17 juin, et j'aurais aimé tout savoir d'un coup, en fait. Parce que moi, j'ai les... Ok, voilà, il m'arrive ça. Potentiellement, il y a une option A, il y a une option B, il y a des chemins différents, il y a des traitements différents. Mais ok, j'ai ça. Ok, j'ai compris, j'ai ça. Que là, en fait... Non, et je pense que d'une manière générale, dans le corps médical, c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on te dit jamais ton diagnostic jusqu'à en être vraiment sûr. Et moi, je crois que j'aurais préféré avoir toutes mes options, parce qu'au moins, j'aurais pas eu à me poser autant de questions. Ok, j'ai ça. Et maintenant, bah voilà ce qui peut potentiellement m'arriver.
Et tu parlais de suivi, donc notamment au niveau des prises de sang, etc. Est-ce qu'on t'a proposé un suivi psychologique ?
Alors non. Et justement, l'association de soutien contre les maladies trophoblastiques. Voilà. Et c'est ASSOMT, donc A2SOSMT. Et en fait, cette association-là, elle fait en sorte d'accompagner les gens dans ce suivi, et elle essaye de faire évoluer avec le centre de référence de Lyon l'accompagnement aussi que tu as au niveau du suivi psychologique derrière. Parce que, en fait, tu te retrouves un peu... T'es partagée, parce que si tu veux, par exemple, moi dans mon cas, j'avais pas d'embryon. Je pense que ça m'a aussi aidée de me dire que finalement il n'y avait pas de vie dans ce qui m'est arrivé. Je sais pas comment je l'aurais pris s'il y avait eu un embryon. Je pense que c'est encore plus difficile, parce que du coup, t'as peut-être 2 deuils à faire dans ce cas-là. Que moi j'avais le deuil de la maternité, le deuil de la maternité pendant une durée, parce que je sais que pendant ce laps de temps là je peux pas avoir d'enfant. Et mais je pense que peut-être que du coup s'il y avait eu un embryon, j'aurais dû faire le deuil de mon bébé du coup qui peut pas survivre, plus le deuil de la grossesse que je peux pas avoir. Et non, t'as pas de suivi psychologique derrière. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui devrait avoir lieu, parce que tu vis quand même quelque chose de particulier. Et encore plus, du coup, pour des femmes où t'as la chimiothérapie à faire, la moelle qui devient invasive, enfin...
Donc toi, du coup, t'es allée voir personne ?
Moi, je suis allée voir personne. Après... j'ai toujours beaucoup parlé de nature, j'arrive à parler, donc j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, parce que en fait j'avais besoin de parler de mon histoire, parce que je me suis dit mais c'est fou que personne n'ait parlé de ça, alors que je constate du coup que ça arrive à d'autres femmes. Et je pense que ça a été un peu moi ma thérapie, tu vois, pour passer à autre chose. Parce qu'il y a eu, cette parole que moi j'ai libérée de moi-même, mais j'ai pas eu le besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que j'ai fait ce travail-là qui m'a beaucoup aidée. Mais potentiellement, oui, c'est quelque chose que j'aurais pu faire, parce que c'est important, je pense.
Et avec ton conjoint, comment ça s'est passé, justement ?
Alors,
Et comment ça se passe, parce que c'est encore d'actualité ?
J'ai de la chance, parce que on s'entend très bien. Lui parle beaucoup moins que moi, pour le coup. Il est beaucoup plus réservé. C'est vrai qu'il en parlait pas forcément trop, même si on en parlait entre nous, mais c'était... je sais pas comment décrire ça, mais tu vois, des fois, on n'a pas besoin de parler des choses pour les vivre et les faire passer, tu vois. Ça n'a pas été un problème entre nous. On a réussi à en parler, mais pas non plus à rester focus que là-dessus. Après, il y a eu des moments un peu plus difficiles où quand moi j'en parle, j'utilise souvent le jeu, et lui il me reprend souvent en me disant mais c'est pas tu ou c'est pas je, c'est nous en fait. Et je pense que au tout début, moi je le vivais un peu comme si ça m'arrivait qu'à moi, sans vraiment me questionner sur lui, ce qu'il ressentait. Et en fait, au fur et à mesure, en communiquant, tu vois, et puis en parlant un peu, bah, je me suis aperçue qu'effectivement, le vécu était, l'expérience autour de ça a été différente pour moi et pour lui. Mais au final, ça a été tout aussi difficile pour lui que pour moi. Et c'est vrai que j'avais tendance à un peu... ramener tout à moi, dans le sens où j'estimais que j'étais celle qui avait le plus vécu le truc. Mais en fait, pour lui, c'était aussi terrible de devoir me laisser toute seule tout le temps à cause du Covid aussi. Donc je sais pas comment t'expliquer ça, dans le sens où on n'a pas eu des longues discussions pendant des heures, mais tu vois, quand on a eu besoin d'en parler, on en a parlé. Et c'est vrai que on est très fusionnels de base, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, et on a vécu beaucoup de choses ensemble importantes, tu vois, dans l'évolution de nos vies, parce que on a vécu le bac, on a vécu, tu vois, le permis. C'est des gros moments dans une vie de jeune. Donc je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est vrai que on a toujours vécu des gros moments ensemble, des étapes importantes de notre vie à chacun. Donc ça en fait partie, et finalement on l'a accueilli comme voilà, ça nous arrive, c'est comme ça, quoi. Ouais.
Et quel rapport tu as avec ton corps aujourd'hui ?
Alors, ça a été hyper compliqué aussi, parce que j'ai pris du poids, en fait, suite à ça. Et en fait, ce qui a été compliqué déjà, c'était que moi, j'étais prête à... Enfin, j'ai pas de problème avec mon image, si tu veux, d'une manière générale. Je suis OK avec les évolutions que peuvent avoir mon corps. Et le truc, c'est que là, en fait, je me suis retrouvée face à un corps qui évolue, mais du coup pas pour rien, en fait. Enfin, il n'y avait pas de raison à ce que mon ventre y gonfle. Et si tu veux, même si j'ai des kilos en trop, j'avais pas de ventre, tu vois. J'ai plutôt une morphologie qui fait que je stocke plus vers le bas qu'au niveau du ventre. Et donc du coup, je me suis retrouvée à avoir du ventre, mais du coup j'ai toujours un peu ce ventre qui me semble un peu gonflé, tu vois, tout le temps, et j'ai l'impression que ça part pas. Et j'ai l'impression aussi que c'est très psychologique. Moi, j'ai cette envie de devenir mère, et je pense que mon corps, il est tellement prêt à accueillir cette maternité que du coup il attend un peu ça, tu vois, et que moi je le conserve un peu dans cette idée-là. Et je pense que au début c'était un peu compliqué pour moi, parce que je me suis dit c'est un peu, enfin voilà, il s'est passé un mois où le corps il a quand même changé. J'ai eu des vergetures à des endroits où j'en avais jamais eu, tu vois, ma poitrine. Et je me suis dit c'est fou quand même en ce laps de temps si court. Et je me suis dit en fait j'étais prête à voir mon corps se transformer pour recevoir la vie, mais j'étais pas prête à le voir se transformer pour tout ce qui m'est arrivé, en fait.
Ouais.
Ça a été un peu compliqué après. Aujourd'hui, franchement, ça va. Mais puis après, ça a été... L'après a été un peu compliqué à gérer aussi, parce que t'as la chute des hormones, enfin, Je suis pas quelqu'un, même pendant mes règles ou des choses comme ça, tu vois, j'ai la chance de ne pas trop souffrir de ça, de mes hormones, ou d'avoir des règles douloureuses, des choses comme ça. Donc j'étais pas habituée à avoir des changements d'humeur, à avoir des hauts et des bas comme ça. Et là, je me suis retrouvée avec des hormones un peu qui dictaient mon état. Et donc j'avais un peu l'impression de vivre une grossesse qui s'est arrêté tôt, mais du coup de subir les conséquences un peu d'une grossesse sans avoir derrière un enfant. Et tu te dis, du coup, pourquoi ton corps il change, pourquoi t'es comme ça alors que derrière il y a rien, quoi. Mmh. Et c'est plus ce changement qui était compliqué de pas pouvoir associer ces changements de corps au fait de devenir maman, en fait. Parce que quand tu deviens maman, t'acceptes que ton bassin peut s'élargir, que ta poitrine est grossie, un maigri. Enfin, tu vois, t'acceptes tout ça parce que tu sais pourquoi tu le fais. Mmh. Même si t'es peut-être pas tout le temps préparée à ça, je pense qu'une fois que t'as ton enfant, tu te dis sûrement ok, mon corps il a changé, il s'est passé ça, mais il s'est passé ça parce que j'ai eu ça. Mmh. Que là. Mon corps, il a un peu changé et en fait, j'ai rien eu derrière. Donc, c'était plus ça qui était difficile à gérer.
Et comment t'envisages, du coup, l'avenir, ta prochaine grossesse? Est-ce que c'est quelque chose... Tu disais, mon corps, tu l'entraînes un peu à ça, t'es un peu dans le sport, là.
Honnêtement, si ça tenait qu'à moi, j'aurais réessayé vraiment... de suite, tu vois. S'il n'y avait pas eu ce suivi de 6 mois, moi, j'aurais été prête à retenter parce que ça fait partie de ce qui m'est arrivé et j'aurais voulu réessayer. Et puis en même temps, tu vois, j'ai quand même un peu peur parce que je me dis, mais comment ça va se passer la suite? Puis je me dis, comment je vais réagir quand je vais apprendre que je suis enceinte? Parce que pour le coup... je vais voir que je suis enceinte et je me dis, est-ce que je vais me dire que je suis enceinte ou est-ce que je vais me dire, ok, c'est positif, on verra quand j'irai chez le gynécologue. Oui. C'est plus, j'apprends un peu plus d'avoir peur. Mais après, j'essaye de me dire aussi que ça sert à rien de se mettre un stress là-dessus parce que potentiellement... ça peut me réarriver. C'est pas parce que t'as vécu une grossesse molaire que tu peux pas en avoir une autre. C'est hyper rare, mais ça peut arriver. Donc je me dis que j'ai autant de chances qu'il y ait un autre truc qui m'arrive qu'une grossesse normale se produise aussi. Donc après, je me dis, faut pas penser que à ce côté un peu négatif, parce que peut-être que si tu vois, le négatif attire le négatif, je sais pas. Donc j'essaie de pas trop y penser. Mais en même temps, je sais pas comment je recevrai ça. Et tu vois, parfois je me dis, je serais prête à réessayer tout de suite. Et puis parfois je me dis, est-ce que je suis vraiment prête à réessayer tout de suite, tu vois? Donc c'est pas toujours évident et je pense que je verrai au moment venu. Parce que j'ai l'impression aussi que quand je vais recevoir mon petit papier qui va me dire, c'est bon, vous pouvez réessayer. Est-ce que j'aurais envie de réessayer tout de suite aussi? Je sais pas, tu vois. Parce que pour l'instant, j'ai cette interdiction qui fait que je me pose pas trop la question parce que de toute façon, j'ai pas le droit. Donc, à voir.
Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi, toute cette expérience
Ouais.
Cette épreuve.
Moi, ce que ça a vraiment changé, c'est vraiment le côté, comme un peu je disais tout à l'heure, pour toutes les femmes, tu vois, qui n'arrivent pas, les parents, les couples qui sont en difficulté. J'en ai beaucoup parlé à ma famille parce que la fameuse question du « alors c'est quand que vous allez avoir un enfant ?» elle revient depuis déjà tellement longtemps. Tu vois, j'ai 26 ans, déjà vers mes 20 ans, on me posait déjà la question parce que ça faisait longtemps que j'étais avec mon copain. Mmh. Alors, ce qui peut paraître fou parce que je suis sûre que j'aurais eu 20 ans avec un copain d'un an, on m'aurait jamais posé cette question. Et j'ai voulu beaucoup en parler à ma famille parce que je pense que cette question, tu vois, aujourd'hui, depuis... plus personne me l'a posé dans mon entourage. Et parce que j'ai une famille qui communique très vite, donc je sais que je l'ai dit à une personne et puis ça a un peu circulé. Donc c'était important d'en parler pour juste un peu éveiller ce côté-là. Et cette expérience m'a fait comprendre ça de ces femmes qui ont vraiment du mal à avoir des enfants, de ces couples qui doivent passer par des parcours différents. Et je me dis, mais ça doit être des épreuves vraiment difficiles à traverser parce que déjà moi, quand je vois dans mon entourage qu'on m'annonce une grossesse ou des choses comme ça, je le prends pas mal, mais je me dis, c'est pas moi encore aujourd'hui.
Ouais.
Je me dis, c'est pas pour moi. Et je me dis, des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, mais je sais, franchement, j'ai une admiration pour toutes ces femmes et ces couples qui partent dans des combats pour avoir un enfant, parce que je me dis, ça doit être vraiment hyper difficile. Ça doit être... ça doit être vraiment... moralement, physiquement, ça doit être prenant. Et tu vois, ce matin, j'avais... un message sur un groupe, sur le groupe Facebook de toutes ces maladies, d'une personne qui en fait a eu une grossesse molaire, et en fait elle explique que elle est retombée enceinte et que là on lui dit que visiblement il y a un truc qui va pas, et peut-être que c'est une mole qui revient. Et tu vois, je me dis, dans son message elle dit, Si c'est ça, j'arrête. Ça fait 3 fois que j'essaye d'avoir un enfant. J'ai 35 ans et elle dit, j'arrête après. Je veux plus. Et je me dis, c'est horrible d'en arriver là, parce que déjà, c'est tellement difficile à traverser qu'elle en arrive à perdre en fait espoir. Et du coup, je me dis, c'est quand même triste que on soit dans des situations comme ça. Et en fait, on l'est beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y a beaucoup plus de couples qui galèrent à avoir des enfants que ce qu'on veut bien le faire savoir. Et puis après, il y a tellement de sujets autour de la maternité qui, je trouve, sont pas abordés. Parce que sur les réseaux, notamment, on parle de quand ça va bien, mais très peu quand ça va mal. Et là, je trouve que ça commence à se délier. Alors peut-être parce que moi aussi, je suis des comptes dans ce sens-là, sûrement aussi, qui est un peu un mix. Mais je pense que ça m'a ouvert les yeux, surtout sur le quand ça se passe pas bien. Et m'a fait réaliser qu'il y avait beaucoup de personnes pour lesquelles ça se passe pas bien.
Est-ce que tu aurais, toi, des conseils à donner à des femmes qui passent par la grossesse molaire ?
Moi, je donnerais comme conseil à toutes ces femmes de s'entourer, en fait. Et c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir parler à des personnes qui ont déjà vécu cette situation, qui vont pouvoir les aider à comprendre, parce que vraiment il y a cette solitude qui est terrible quand on nous annonce ça, parce que personne sait dire qu'est-ce qui se passe. Et je conseillerais à toutes les femmes d'essayer de s'entourer au maximum et de pas perdre espoir aussi sur la suite, parce que je pense que quand il y a de l'espoir, ça te maintient, et il faut jamais perdre espoir sur son parcours de maternité, parce que je pense que si on s'accroche dur comme fer à son objectif de maternité, et on y arrive. Et après, il y a 10 000 chemins pour y arriver, mais on peut y arriver, quoi.
Écoute, je te souhaite de tout cœur, en tout cas, d'y arriver.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Mégane.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Mégane, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 68 sur le compte Instagram @letourbillonpodcast. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Itsinis. I'm Kayla Itsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.